Il aurait fait toc toc toc, moi je fais coucou coucou. Salut Jérôme Colombin.
Salut Bruno Guglielminetti. Ça s'arrange pas, hein, nos entrées en matière.
Ouais, faut se dépasser de semaine en semaine. Et comme tu mets la barre très haute, j'essaie de trouver quelque chose. Hey, Jérôme, je te retrouve en Floride encore cette semaine. T'as décidé de t'installer, toi?
Non, j'ai pas décidé de m'installer, même si ça me tente. Je te le cache pas. Mais non, ben on en parlait déjà la semaine dernière. Effectivement, je poursuis mes vacances. Mais voilà, c'est pas vraiment des vacances, hein, puisque tu m'as convoqué au micro. Là, tu m'as dit bon, allez, rendez-vous pour enregistrer. J'ai dit bon, d'accord. Ouais. Alors voilà, je suis là, quoi.
Non, mais je prends pas tout le blanc parce qu'il y a quand même Joshua Benjo qui voulait te parler.
Oui, alors voilà, cette interview exceptionnelle avec Monsieur Joshua Benjo. Effectivement, une date et un rendez-vous avec Joshua Benjo ne se refuse pas. Donc, on fait tout comme ça. On fait tout en ce moment. Ben, on va en parler, je pense, dans un instant de cette interview.
Oui, on va entendre l'entrevue qu'on a faite. Mais écoute, si je te dérange en plus pour...
Je t'en prie. Ouais, assieds-toi, bon, viens, je te fais un café.
Deux sucres, un lait, s'il te plaît. Donc, si je voulais te parler juste avant qu'on entende l'entrevue, c'est que en France, je sais que t'es quand même pas si déconnecté que ça, il y a le président français qui vient de recevoir un rapport fait par une commission très sérieuse qui, maintenant, si je prends les grandes lignes, là, dit tout simplement pas d'écran pour les enfants de moins de 3 ans. À 13 ans, on peut leur donner un téléphone. À 15 ans, on peut les brancher sur les réseaux sociaux. Et puis, bonne chance.
Oui, c'est vraiment ça, c'est bonne chance. Ouais. Mais écoute, c'est intéressant, effectivement, cette news. J'en ai parlé là dans la séquence actu de Monde Numérique cette semaine parce que c'est assez incontournable. Et c'est intéressant, à mon avis, à plusieurs titres. Parce que d'abord, il y a le côté qu'est-ce qui va se passer ? Puisque maintenant, après ce rapport, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire des propositions concrètes pour mettre en application ces recommandations. Mais ce qui est également intéressant, c'est le débat que ça lance. Mmh. Parce que du coup, il y a beaucoup de discussions, d'interrogations, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias. On entend des experts, on entend des politiques, on entend des gens... de simples utilisateurs, parce qu'on est tous concernés évidemment par cette question. Ah ouais. Et chacun donne son avis et chacun a un peu sa vision des choses. Et elles sont la vision, il y a des choses qui sont sur lesquelles tout le monde est d'accord, et puis d'autres, on n'a pas forcément l'unanimité. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est le fait qu'il faut protéger notamment les tout petits enfants des excès des écrans. Quand on voit, on l'a tous vu dans des restaurants, des familles qui par facilité confient un iPad à un petit enfant, mais vraiment un petit, à moins de 5 ans ou moins de 7 ans, et le laisse comme ça pendant des heures dans son monde sans lui ouvrir, lui adresser la parole. Et si ce type de scène se répète, on sait que c'est pas bon. Même si, et ça le rapport, c'est intéressant parce que quand on consulte un peu ce rapport, on s'aperçoit que les experts n'ont pas réellement relevé de conséquences sur le développement des enfants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'une certaine manière. En revanche, quand il y a une addiction très forte, eh bien, ça pose d'autres problèmes, hein, de sédentarité, donc d'obésité, de problèmes de concentration, de manque de sommeil, etc., etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, hein, en fait.
Mais Jérôme, je vais me faire l'avocat du diable. Il n'y a pas quand même un déplacement du problème, c'est-à-dire qu'à une autre époque, qui était la nôtre quand on était plus jeune, là, les parents se faisaient regarder parce qu'ils laissaient les enfants de la télé. On disait que la télévision était devenue la gardienne des enfants. Là, c'était l'iPad qui est beaucoup plus mobile ou carrément le téléphone portable. On déplace le problème. L'idée, c'est que on est toujours quand même à positionner des enfants devant quelque chose, que ça soit le téléphone, que ça soit la télé.
Oui, mais... C'est toujours le même problème, et ça veut pas dire que parce que on est passé d'un écran à un autre type d'écran que y a pas de problème. C'était déjà un problème de laisser des tout petits enfants très longtemps tout seuls devant un écran de télé.
Mais je t'en regarde, c'est la même chose. Ouais, mais t'as quand même pas mal tourné.
Bah écoute, moi j'ai pas passé tant de temps que ça devant la télé. Après c'est une question de génération, mais non. Puis je pense que ça dépend beaucoup. Il faut le dire, ça dépend beaucoup des milieux, de l'attention que les parents peuvent prêter, ont le temps de prêter à leurs enfants. On le sait par exemple que, et ça surprend beaucoup de monde, mais dans les familles des géants de la tech, des grands de la tech, eh bien les parents sont. Alors c'est pas d'écran, mais c'est une pratique très réglementée, très surveillée. Pourquoi ? Parce que ce sont fonction des milieux favorisés, avec des parents qui font extrêmement attention à l'éducation de leurs enfants. Et dans cette démarche-là, eh bien, ils essayent de les préserver des excès, en fait.
Ouais, mais permets-moi d'être une langue sale et dire, et ils ont aussi le personnel pour les encadrer.
Oui, bien sûr. Non, mais il y a toutes ces raisons-là. Ouais. Bah oui, oui, évidemment, évidemment. Ouais. Mais ça compte. Alors après, sur ce que je te disais, il y a une partie débat qui est intéressante aussi, c'est que il y a des gens qui disent oui, mais par exemple, interdiction du smartphone jusqu'à 15 ans, c'est une aberration. Et je suis pas loin de penser la même chose, parce que tu peux pas non plus couper les jeunes de cette génération-là de leur vie sociale et de ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Il y a des jeunes qui aujourd'hui, bah, même si en plus après ils font des carrières dans le numérique, etc., tu peux pas attendre qu'ils découvrent le smartphone, Internet ou même les réseaux sociaux à 18 ans, quoi. Ça paraît débile. Donc c'est vraiment une question de curseur, c'est extrêmement délicat, et moi je me demande vraiment ce que les pouvoirs publics vont pouvoir mettre en place, parce que je pense qu'il va falloir une partie de mesures très draconiennes, très autoritaires, par exemple dans les écoles, des choses comme, mais c'est déjà le cas, hein, dans les écoles on n'autorise pas l'usage du smartphone pendant les cours, etc., mais il faudra peut-être aller plus loin, peut-être dans des lieux publics. Il y a une mairie en France, une ville, une petite commune en France qui a interdit l'usage du smartphone, mais également pour les adultes, pour les enfants et pour les adultes, pour tout le monde, dans les lieux publics. Peut-être qu'il faut aller vers ce genre de mesures autoritaires à certains moments, dans certains contextes. Et puis après, c'est une question un peu de prise en main de chacun à titre individuel.
Mais tu vois, la France n'est pas tout seul à essayer de trouver un encadrement qui serait correct. Je pense à l'Ontario, qui est la province voisine du Québec, où là, on est en train de resserrer les règles sur l'utilisation du téléphone cellulaire dans les écoles. L'Ontario, hier, donc, cette semaine, a statué que maintenant le téléphone serait interdit toute la journée dans les écoles primaires et pendant les heures de cours au secondaire, et les médias sociaux seront bannis. D'accord. Des réseaux Internet des établissements. Alors, c'est pour te dire comment on veut... c'est une approche drastique, là, mais on veut que les jeunes, lorsqu'ils sont à l'école, puissent se concentrer sur leur étude.
Bien sûr, ça paraît... C'est difficile de critiquer ça, quoi. Ça paraît tellement évident.
Non, mais c'est
évident.
Ça, mais ça, au moins, c'est une base. Là, après, par la suite, carrément d'exclure les adolescents de leur vie sociale qui s'est développée sur les réseaux sociaux, je trouve ça extrême, là, c'est... Hey, dis donc, question plus légère, mais tout de même à propos. Maintenant que tu es aux États-Unis, on va laisser planer le doute là, sur si un jour tu vas retourner en France. Est-ce que tu utilises plus Threads que X maintenant que tu es là-bas? Parce que là, on vient de voir des chiffres.
Je sais pourquoi tu me demandes ça. Parce que apparemment, ça marche bien aux États-Unis, Threads.
Ben, je comprends. Threads vient de détrôner X au niveau du nombre d'utilisateurs, particulièrement là, sur le territoire américain. Alors, je me demande si c'est dans l'eau, si c'est dans l'air. Est-ce que toi, tu te ressens le besoin d'aller threadser sur ton téléphone?
Ouais. Moi personnellement pas vraiment, hein, je vais te dire, ça n'a pas changé grand chose là. Je crois que depuis que je suis là, je suis dû aller une fois ou deux sur Threads, peut-être parce que j'avais un peu plus de temps que d'habitude et c'était plus pour m'occuper qu'autre chose, mais j'ai pas perdu mes bonnes vieilles habitudes, et notamment tout le temps que je passe sur X principalement. Même si je m'énerve de plus en plus par rapport à X, mais bon, ça comme tout le monde, hein, on en devient complètement, c'est vraiment une espèce de crack abominable, ce réseau social, où on en veut toujours plus, on y retourne et on sait que c'est dégueulasse, quoi. C'est de pire en pire, on est confronté à des contenus qu'on déteste, enfin bon, tout le monde s'engueule au bout du deuxième commentaire, enfin c'est intolérable. Mais pourquoi ce boom de Threads selon toi aux États-Unis?
Ben écoute, je pense que la stratégie de Zuckerberg d'amener cet outil-là par le biais d'Instagram,
bien
je
sûr.
Pense que ça a réussi. Hein. C'était comme le cheval de Troie qui est implanté, puis là, bon ben, on fait rouler. Puis surtout que au niveau de l'utilisation, de l'expérience utilisateur, d'arriver sur un nouveau réseau et d'avoir déjà des gens qu'on peut suivre, c'est pas banal ça, parce que sur Blue Sky ou sur Mastodon, il faut repartir à zéro. Et c'est ça qui est laborieux. Quand on est habitué d'avoir une expérience sur X, où on a déjà des gens, il y a déjà un réseau social qui est là, de repartir un nouveau truc, c'est un peu laborieux. Alors là, on arrive sur Threads, c'était vraiment habile. Il y a une importation des abonnements qu'on avait sur Instagram. Donc, ceux qui sont déjà sur Threads, automatiquement, on les suit. Et puis, c'est pour ça que c'est amusant que de temps en temps, on envoie un débarquer à la dernière minute. Puis on dit, j'ai déjà des abonnés, j'ai déjà des abonnements. Ben oui, c'est ça, c'est la formule que Meta a choisie. Hey, Jérôme, je veux quand même profiter de ton passage dans mon podcast pour parler de mon numérique. Qu'est-ce que c'est l'édition cette semaine, mis à part Yoshua Benjo qu'on va entendre bientôt? Là.
Bah écoute, ben, c'est déjà pas mal. Hein. Donc cette interview exclusive que nous a accordée Yoshua Benjo, passionnante d'ailleurs, vraiment, en réécoutant, là je me disais qu'il nous avait dit des tas de choses vraiment super intéressantes que j'avais pas forcément entendues ailleurs. Et donc vraiment, je suis très très heureux qu'on ait pu faire cet échange. Et puis sinon, autre sujet... Écoute, alors je m'intéresse à la présence des femmes dans la tech, ou plus exactement de l'histoire des femmes dans la technologie, parce que bah, c'est souvent on dit que les femmes sont absentes de la technologie, mais que paradoxalement elles ont émaillé toute l'histoire de l'informatique. Et j'interviewe Marion Carré, qui est une entrepreneuse française et qui a écrit un livre dans lequel elle raconte l'histoire des femmes dans la technologie, et notamment elle explique comment une grande informaticienne, mais que peu de gens connaissent, qui s'appelle Alice Recoq, une informaticienne française qui avait vraiment fait des choses incroyables, a été quasiment invisibilisée par Wikipédia et puis enfin tout ce qui aurait pu lui donner de la visibilité. Donc c'est toute la question des rapports des technologies avec les femmes. Je trouve que c'est assez intéressant.
Sujet, puis c'est toujours important de ramener justement de l'avant que si elles n'avaient pas été là, on serait vraiment pas rendu où on est aujourd'hui. Et puis sinon, c'est ça, le joyau de la semaine de ta part et de la mienne, c'est cette entrevue avec Yoshua Benjo, qui était un événement fort intéressant. Voilà. De faire l'entrevue à deux comme ça, ça amène deux perspectives sur le même sujet.
Tout à fait. Bah écoute, donc on ne se quitte plus, hein, puisqu'on se retrouve juste après, là, dans un instant, pour cette fameuse interview à deux voix du grand informaticien, du grand chercheur en informatique,
Yoshua Benjo. Allez, on prend notre élan, on fait une courte pause et puis on revient tout de suite après.